Vous écoutez
RMC. RMC, intégrale Coupe du Monde.
Simon Dutin.
Entouré ce soir de deux consultants de choix, Elton Mokolo, Younes Belhanda, pour vous accompagner jusqu'à 22h avant de passer la main à Nicolas Jamin pour l'after. Il sera en compagnie de Walid Acharchour et Maxime Chano à peine plus de 48 heures du coup d'envoi de la demi-finale France-Espagne. Ce sera à 21h, heure française à Arlington, dans le Texas. Vous avez vu, on se met dans l'ambiance avec de la musique pop, de qualité, de choix, évidemment.
C'est ce que t'aurais dit, pop.
Oh, c'est quoi, c'est pas de la pop, de la pop espagnole, non?
Ouais, j'aurais pas dit pop.
Ouais, t'aurais dit quoi, de la musique?
Alors là, ils sont en train de chercher, ouais. Parce que niveau référence musicale...
Tu te débrouilles, mais voilà. Les mélomanes se feront leur idée, voilà. Il y a les pros et les anti-musique espagnole. Alors, je te laisse choisir le qualificatif. Vous le savez, messieurs, pour terminer un jeu vidéo, il faut battre le boss final. Hein, dans le foot, le boss final, c'est l'Espagne, hein, depuis 10 ou 20 ans. Même si cette fois-ci, c'est juste avant le dernier niveau, hein, qu'on va devoir le battre. Championne du monde 2010, championne d'Europe 64. Bon, 2008, 2012, 2024. Elle nous avait éliminés, souvenez-vous, en demi-finale, on en parlait à l'instant. Bon, elle représente quand même encore dans notre imaginaire un petit peu ce qui se fait de mieux au niveau football. On va se demander ensemble, messieurs, si on a raison de se méfier autant de cette sélection espagnole. Pour ça, on va s'appuyer sur l'un de nos envoyés spéciaux, RMC Sport, auprès de la Roja, Nicolas Pelletier, qu'on retrouve en direct de Dallas, au Texas. Salut Nico.
Salut les amis, salut à tous. Et tu veux un chiffre, Simon? Tu parlais de
chiffres. Mais bien
chiffres,
sûr, on voit du chiffre direct.
Non, mais c'est que la Fédération espagnole vient de publier un article sur son site internet et ça rejoint un peu ce que tu dis. L'Espagne reste sur 37 matchs officiels sans défaite. Voilà, ça ajoute un petit peu plus de chiffres à ce que tu étais en train de dire. C'est un article qui vient de tomber sur le site de la Fédération espagnole.
Nia, 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 nia. Ça vient. On commence à se la raconter avec les chiffres. Là, oui, bon, 37 matchs officiels sans défaite. En effet, ça commence à compter. Nico, on va essayer de trouver avec toi, Elton et Younes, des raisons de se dire que ça peut changer mardi soir à Dallas, même si tu peux te faire éliminer sans perdre, hein, on le rappelle.
Exactement.
un petit match nul. Voilà. Les dernières infos autour de cette sélection espagnole, Nico, que tu as pu voir s'entraîner au moins quelques minutes tout à l'heure.
Oui. Ouais, on a vu les 15 premières minutes à 48 heures de cette demi-finale de la Coupe du Monde. On a vu donc les hommes de Luis de la Fuente sur la pelouse d'un centre d'entraînement ici à Dallas, juste à côté de la fan zone de Dallas. La première information que je vous donne, alors il n'y avait pas de blessure en tant que telle, mais en tout cas, Luis de la Fuente dispose de son groupe entier pour ce match face à l'équipe de France. Tout le monde était là ce matin à l'entraînement sous les ordres de Luis de la Fuente. Il y a mal tous sourire lors de cet entraînement très proche notamment de Laporte et Nico Williams qui fête aujourd'hui son anniversaire et a le droit à un petit chambrage de la part de ses coéquipiers. Un élément à prendre en compte, c'est qu'il fait très très chaud ici à Dallas. On a vu les Espagnols souffrir, même s'ils sont habitués à la chaleur. On les a vus 41 degrés ici à Dallas aujourd'hui. Alors aucune inquiétude pour mardi soir parce que le stade est fermé et climatisé du côté de Dallas. Mais il faut quand même s'y habituer lors des entraînements. Et petit point aussi de contexte pour vous faire une petite carte postale, c'est que ce matin, les joueurs espagnols et aussi le sélectionneur Luis de la Fuente ont eu droit à une tournée médiatique. Tous les joueurs ont donné un entretien individuel aux radios, à la presse écrite, à la télévision espagnole. Et donc, vous allez le voir dans les prochaines heures, notamment fleurir des interviews de joueurs et notamment de Luis de la Fuente, le sélectionneur qui a donné une interview à la Cadena SER, nos confrères de la Cadena SER. Donc voilà, vous allez le voir notamment des citations sortir dans les prochaines heures et ça sera notamment intéressant de voir ça à 48 heures du match face à l'équipe de France.
Et on a déjà vu quelques citations du jeune Yamal sortir après la qualification pour cette demi-finale. Il s'est exprimé évidemment en parlant de l'équipe de France et du statut de favori ou d'épouvantail. Nico, quelle est l'ambiance dans le groupe espagnol? Est-ce qu'on est confiant justement avant d'affronter les Bleus, à part, je viens de le rappeler, Yamal qui lui nous a déjà donné son avis?
Oui, il a dit lors du dernier match, juste après la qualification face à la Belgique, que c'était plutôt à l'équipe de France de craindre de l'Espagne. Et donc ce matin, en conférence de presse, Ibrahima Konaté lui a répondu.
En toute honnêteté, on n'écoute pas ce qui se dit par rapport à tout ça et faut avoir peur de personne. Faut rester dans cette humilité qu'on a dès le début et faut pas tomber dans ce piège-là, surtout à ce moment-là de la compétition. Maintenant, peut dire ce qu'il veut. Nous, on va essayer de se préparer du mieux possible jusqu'à ce moment-là. Et à la fin du match, j'espère que le résultat sera favorable pour nous.
Et pour surfer un petit peu sur cette petite phrase de Lamine Yamal, il y a une petite sortie qui fait réagir depuis quelques minutes maintenant sur les réseaux sociaux. C'était lors de la zone mixte ce matin avec les différents médias. C'est Rodri qui est notamment revenu sur cette petite phrase et les petites phrases de Lamine Yamal depuis quelques jours. Et il dit, cette phrase-là, il dit, Yamal a des progrès à faire pour comprendre le déroulement d'un match, notamment sur son anxiété. Donc voilà cette petite phrase qui fait beaucoup réagir en Espagne. De nombreux médias en parlaient ce matin. Il le dit devant la télévision ESPN et la Fox. Et donc voilà, cette petite phrase fait beaucoup réagir en Espagne depuis maintenant quelques heures.
Nicolas Pelletier en direct de Dallas où l'équipe d'Espagne est déjà installée à 48 heures de sa demi-finale face aux Bleus. Les Bleus qui sont dans l'avion depuis la côte des États-Unis pour s'installer dans le Texas où aura lieu, je vous le rappelle, cette rencontre. Tu restes avec nous, Nico, évidemment, tu interviens dans notre petit débat. Younes, tout à l'heure, tu as sous-entendu que finalement, le profil de Yamal, il pouvait parfois peut-être créer des doutes, des hésitations dans le fonctionnement de cette sélection espagnole, habituée à masquer l'individualité au profit du collectif. Quand on connaît un petit peu l'appétit du jeune Yamal pour les déclarations un peu à l'emporte-pièce, comment tu accueilles, toi, ces déclarations? Et toi, si tu étais un des papas du groupe espagnol, est-ce que tu serais un peu agacé par, je sais pas, cet enthousiasme, cette confiance?
Ouais, bah après ça c'est le choc des générations. Vous savez très bien que la nouvelle génération, elle aime parler sur les réseaux sociaux, montrer leurs ambitions, ne montrer qu'ils ont pas peur et voilà, parler librement. L'ancienne génération, comme nous un peu, on est un peu plus réservé. On aime montrer sur le terrain, pas trop parler, parce que tu sais que si tu parles trop, ça peut te porter préjudice. Après voilà, c'est ce qu'on a ressenti aussi sur la sortie de Rodri, ouais. Où je pense que ça l'agace un petit peu parce que l'Espagne on connaît, c'est des joueurs très sérieux. Vous vous rappelez avec Iniesta, Xabi, Busquets, des joueurs comme Thiago Alcantara, pareil, où ils avaient un talent exceptionnel, mais qui ne parlaient pas trop en dehors des terrains. Donc ouais, je pense que ça fait un petit choc de génération, mais ils savent que dans d'autres cas, Yamal peut faire la différence à n'importe quel moment. Donc, quand il parle de ça, il est un peu modéré parce qu'il sait que quand ça va être compliqué, ils vont lui donner le ballon et ils vont nous dire, s'il te plaît, fais-nous de la différence, surtout face à la France. Donc c'est un petit peu modéré, mais c'est pas leur style de parler autant. Tu vois, les Espagnols, ils sont un peu plus réservés et ils montrent leur talent sur le terrain.
Eltod, il est si fort que ça, Yamal, pour qu'on puisse justement passer outre ce que Younes rappelait, cette culture espagnole du collectif avant l'individualité.
Non, mais aujourd'hui, Lamine Yamal, pour moi, c'est un big bang footballistique du côté espagnol, déjà dans sa manière d'aborder la compétition et aussi par rapport au jeu espagnol. Pourquoi je dis dans sa manière d'affronter la compétition? Parce que lui, il est persuadé qu'à chaque fois qu'il va se présenter sur un match, sur un tournoi, il va aller au bout. Alors que là, quand on parle des joueurs espagnols qu'a évoqué Younes, c'est des joueurs, entre guillemets, petit écolier, très respectueux, pas un mot plus haut que l'autre, où en gros, la décision se fera sur le terrain. Lamine Yamal, pour le meilleur et pour le pire, voilà, il a cette approche-là. Il a une approche décomplexée. Et pourquoi je dis que c'est un big bang footballistique, c'est que avant, de manière traditionnelle, le jeu espagnol, c'est un jeu en fait qui est tourné vers le collectif. Il n'y a pas une tête plus haute que l'autre. Et en gros, on fait des différences de manière collective. Mais là, à partir du moment où tu as un joueur de la taille d'un Lamine Yamal, qu'est-ce que tu fais? T'as quand même la tentation de vouloir lui donner le ballon pour qu'il fasse la différence. Et moi, ce qui va m'intéresser pour le futur du football espagnol, c'est à quel point ils vont pouvoir, entre guillemets, mélanger, liner ce qui est le football espagnol, le football collectif, et l'acquis que représente Lamine Yamal, qui est un joueur qui redéfinit les codes du football espagnol.
Et justement, Younes, il est si fort, Yamal, qu'on a l'impression qu'il a réussi à lui tout seul quasiment à faire changer le logiciel espagnol, justement. Une Espagne qui accepte parfois de ne plus vampiriser le ballon, de le laisser parfois à l'adversaire, qui accepte parfois des matchs un petit peu plus chaotiques, un petit peu plus ouverts qu'à la grande époque d'El Bosque, qui cherche parfois plus vite en profondeur.
Oui, Nico, Simon, si tu veux un petit contexte aussi, là, ça vient de sortir, c'est pour ça que je te le dis et ça va vous ajouter de l'eau pour le débat qui suit. Il y a Luis de la Fuente qui vient de dire Lamine n'a pas encore livré sa meilleure performance dans cette Coupe du Monde. Je n'en dirai pas plus. Je sais qu'il est incroyablement motivé. Il suffit de regarder son visage. Il a très envie de jouer. Il faut juste l'aider à gérer son stress. Il ne doit pas se laisser submerger par la pression. Voilà ce que dit le sélectionneur espagnol à la Cadena Ser dans son interview à apparaître dans les prochains
mois. De la Fuente, il a les yeux et les oreilles ouverts, hein, comme nous. Hein. Il voit bien qu'on attend encore le jeune Yamal à l'entrée du grand magasin de la Coupe du Monde. Je le disais, Younes, cette Espagne, elle a un petit peu changé de logiciel. Non. Est-ce que ça la rend plus ou moins dangereuse? Non, tu n'es pas d'accord avec ça? C'est toujours cette Espagne de possession qui joue au ballon, qui rend fou l'adversaire.
Oui, mais c'est la possession, mais le milieu de terrain, il a complètement changé. Ouais, vous vous rappelez avec Iniesta, Xabi, Busquets, vous pouvez avoir aussi Alcantara. Moi, j'ai joué contre Alcantara à la Coupe du Monde 2018. Ben, c'était très fort. Vous avez les anciens Cazorla. Il y avait ce milieu de terrain qui était très fort, qui arrivait à se projeter, qui cassait le milieu de terrain par le dribble, par le contrôle. Et qui se projetait beaucoup aussi avec un Iniesta qui, un coup il est à côté de vous, un coup il est devant. C'est très compliqué. Mais maintenant, avec les ailiers qui sont arrivés en Espagne, qui sont très très forts dans le 1 contre 1, eh ben ils arrivent à allier des fois la possession et le jeu direct parce qu'ils ont des joueurs comme Yamal, Nico Williams, qui sont capables en 1 contre 1 de faire des différences et de martyriser les défenseurs et les latéraux. Tu le veux contre Nuno Mendes ou tu vois contre les meilleurs latéraux. Ben Yamal il a fait des ravages en Ligue, soit en Ligue des Champions, même avec l'Espagne. Donc ça redéfinit carrément le jeu de l'Espagne qu'on a connu de possession.
Mais justement, est-ce que ça la rend plus ou moins forte selon vous cette équipe d'Espagne?
Là, ça la rend plus forte parce qu'elle s'est enrichie. Elle s'est enrichie footballistiquement avec de nouveaux profils.
Je demande ça parce qu'on a l'impression qu'elle maîtrise moins quand même son projet de jeu.
Après, ça veut dire quoi, maîtriser moins? Moi, sur la Coupe du Monde, moi, justement, elle maîtrise beaucoup plus.
Tu trouves?
Parce que moi, je la trouve plus mature que lors de l'Euro 2024. Parce que t'as des individualités qui sont moins fortes par rapport à des problèmes physiques. Ils n'arrivent pas forcément à monter en puissance. On a évoqué les joueurs tout à l'heure, mais ils compensent ça par une maîtrise qui est pour moi de tous les instants. Si tu veux, tu regardes la Coupe du Monde de l'Espagne. Déjà, ils ont pris un but. Ça veut dire
un seul but encaissé, c'était dans le quart contre
un seul but encaissé, et même sincèrement le but de la Belgique, ça arrive sur un temps fort espagnol. Moi, le but de Keteler, il arrive sur un moment donné, on était beaucoup plus proche du 2-0 que du 1 partout. Mais non, sinon pour le reste, c'est une équipe qui arrive justement à avoir cette maîtrise parce que en fait, ils t'enferment dans les derniers mètres, ils arrivent à faire voyager le ballon, et comme ils arrivent à faire voyager le ballon, tu repars de très très loin. Si tu veux, t'es pas pilote d'avion là, t'es dans la soute quoi. Il faut repartir de l'avant pour aller attaquer le but espagnol. Donc aujourd'hui, moi, je pense qu'ils ont beaucoup plus de maîtrise parce que quand tu regardes un Rodri qui monte en puissance, qui fait une Coupe du Monde qui est très intéressante, même sur les lignes arrières, Koubarsi, Laporte, ce qui était une inquiétude. Parce que c'était la première fois qu'ils étaient alignés ensemble. C'est plus qu'une satisfaction. La maîtrise, elle est ancrée.
Younes, t'es d'accord avec ça? L'Espagne est encore plus dangereuse?
Ah oui, elle est plus dangereuse parce qu'elle a cette variété dans le jeu où ils savent garder, avoir la possession du ballon et assiéger l'équipe adverse. Et ils ont cette capacité où c'est sur les côtés de faire mal. On l'a vu, je crois que c'était le premier match où ils ont pas trouvé la solution. Et quand Yamal est rentré, il y a eu plus de tentatives, plus de duels en un contre un sur les côtés, qui a ouvert un peu le jeu sur le milieu de terrain. Donc ouais, ils ont cette variabilité dans le jeu de conservation, mais aussi sur les côtés, de défier les latéraux et de mettre en déséquilibre une défense. Donc donc voilà, elle est plus forte pour moi.
Bon, j'espérais que vous alliez nous rassurer tous les supporters des Bleus, mais pour vous elle est encore plus inquiétante. Déjà un prix.
On sera plus élogieux sur la France, hein. Ne vous inquiétez pas.
Évidemment. Avant d'accueillir Christophe, supporter espagnol qui a fait le 32-16, petit détour par Wimbledon, Eric Salio qui s'en met plein les moustaches avec des points magnifique entre Zverev et Sinner, la finale du tournoi masculin.
Ah, c'est pas vilain. Puis en plus, ça intervient à un moment crucial puisque Yannick Sinner sert pour le match. Il y a 15-30 à désormais. Mais le point d'avant, oui, ça se racontait, à savoir qu'il a obligé Zverev à courir vers le fond de court avec un petit lob. Zverev s'est retourné, il a lâché le passing qui était très bon et Sinner a tenté un plongeon à la Boris Becker, mais il a pas la main, le Boris Becker. Hein. Il l'a sorti largement et là on s'est dit attention, danger. Et il y a 30 à. Donc il est à 2 points du sacre, à 2 points d'un doublé ici à Wimbledon, à 2 points d'un premier titre majeur en 2026 après sa défaite en demi-finale à Melbourne face à Djokovic, et puis surtout cet échec incroyable contre Juan Manuel Cerundolo à Paris, à Roland-Garros, en pleine canicule, l'effondrement incroyable de l'Italien. Ouais. Il a besoin du titre, mais pour l'instant, Zverev est toujours debout. 5-4, 30-à, bonne première. Le retour est très, très profond, donc l'échange s'installe. Oh là là, il fait très mal là, Zverev, avec ce revers, mais ça ne suffit pas à faire le point. Je ne sais pas comment il a remis le point, Yannick Sinner. C'est extraordinaire ce qu'il a fait là. Mais ça continue avec Zverev qui joue très très long. Les deux jouent long. C'est une bataille de revers, revers sur revers. Qui va craquer? Encore un petit revers, court croisé. Non, c'est long, c'est très long. Mais c'est incroyable cet échange. C'est l'échange du match. Zverev qui lâche le coup droit. Mais ça ne suffit pas. Morty de Zverev, elle va être gagnante ou pas contre Morty. Oh, elle est belle! Incroyable contre Morty de Sinner. Balle de match. Quel échange! Oh, wow. Je ne reviens pas. Quel échange! Je pensais vraiment que quand j'ai vu partir l'amorti de Zverev, dans ma tête, c'était plié.
Ça, c'est une vraie
balle. Il a glissé sur air. Il est extraordinaire, Sinner, sur ce coup de défense. Et en plus, il rajoute la main. Parce que l'amorti, la contre-amorti croisée de revers, elle est juste fabuleuse. Personne ne pouvait s'y attendre, même pas Sinner. Et ça donne donc balle de match. 2-7-1. 5-4, 40-30, là, il va prendre son temps, Sinner, parce que là, il y a le palpitant. Moi, je serais lui, je prendrais un avertissement, un warning. Bah oui, non, mais faut
ça, ça ne coûte pas de toi, Eric, on connaît le filou.
Bah, mais un avertissement, ça te coûte rien.
Oui, il faut jouer avec
le deuxième
qui
est coûteux. Le deuxième te prive d'une première balle de service. Là, c'est le premier, ce serait le premier. Non, il va y aller. De toute façon, Eva Zeraki, il va pas lui filer un warning. Elle est intelligente. Allez, c'est parti. Bonne première. Un coup droit de Sinner. Il est pas bien, là, notre ami Zverev. Il est pas bien. Ah, c'est gagné. Là, il s'allonge sur le dos. Quelle magnifique victoire de Yannick Sinner. Le doublé à l'issue d'une finale extrêmement serrée. J'attendais pas Zverev à ce niveau-là. Sinner non plus, je pense. Et il s'en sort en 4-7. Le doublé, le premier titre majeur et le cinquième dans sa carrière. Et oui, Alcaraz fallait être là. Allez, ciao.
Good evening, mon cher Eric. Merci pour cette ouverture de Wimbledon. On s'est régalé, évidemment, sur RMC. On n'en a pas manqué une miette. Un grand moment de sport. Yannick Sinner, donc, qui conserve son titre à Wimbledon dans une magnifique finale face à Alexander Zverev. Retour à nos moutons et notre ballon rond dans un instant. Elton Mokolo, Younes Belhanda, qui vous accompagne jusqu'à 22h. Dans un instant, la deuxième heure de ce début de nuit de l'after. On va continuer à parler de l'Espagne. Christophe a été patient, supporter espagnol. Il viendra confronter son avis à celui de nos experts. Faut-il craindre encore plus qu'avant cette sélection espagnole qui a su faire sa mue et se débarrasser de ce football total possession pour se projeter parfois plus rapidement vers l'avant. Vous ne bougez pas, on est de retour dans quelques secondes, pas plus.